profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Bonjour, bonjour, c'est Marek à l'antenne de CFM Radio. Mes histoires de la semaine seront les suivantes. L'empereur cannibale, un mensonge historique autour d'un dictateur africain, Monsieur Bokassa Ier. Puis je vous parlerai de Dame Blanche, fantomatique, faisant de l'autostop. Et enfin, miracle à Tchernobyl, où en vérité, il n'est pas très normal que nous soyons encore vivants. À découvrir. L'empereur cannibale. L'image devait frapper les imaginations. L'homme, à la robe chamarrée, portant sur ses épaules un manteau de 12 mètres en velours rouge entièrement doublé d'hermine et brodé d'aigles de soleil et d'étoiles d'or, se lève, se saisit d'une énorme couronne aux milliers de brillants, surmontée d'un diamant de 58 carats, et se la pose sur la tête, se sacrant ainsi empereur. Exactement comme un certain Napoléon Bonaparte 173 ans plus tôt. L'image devait frapper les imaginations. Elle le fit surtout rire. Comment un ancien sous-officier de l'armée française pouvait-il avoir l'audace de singer Napoléon Ier ? Comment un dictateur africain avait-il la prétention de se livrer à un aussi grotesque simulacre ? Bokassa Ier. Quelle rigolade ! Tout ce qui restait en nous d'esprit colonialiste et de racisme latent se réveillait. Voilà maintenant que les rois nègres osent se faire empereurs. C'est vrai, ce sacre, cette cérémonie somptueuse, ce trône démesuré en or représentant un aigle, cette débauche de richesse pouvait prêter à rire. C'était oublié un peu vite que la République française avait largement contribué à l'organisation et au financement du sacre, que notre pays était officiellement représenté par l'un de ses ministres, que le directeur de l'information d'Antenne 2 s'était déplacé pour interviewer en direct Bokassa Ier, preuve évidente de l'importance de l'événement. Et puis, si l'on s'en tient à l'actualité récente, l'intronisation d'un empereur africain est-elle au moins digne d'intérêt que les obsèques mondiales et télévisuelles d'une princesse morte dans un accident de la route ? 2 ans plus tard, Bokassa Ier était déposé à l'initiative de la France et par des militaires français. L'opération, à l'évidence, dissimulait et dissimule encore bien des mystères. Bokassa Ier faisait rire, mais il faisait peut-être aussi peur. C'est pourquoi il fallait se débarrasser de lui au plus vite, quitte à forger une ébouriffante manipulation. 2 ans avant l'élection présidentielle de 1981, Valéry Giscard d'Estaing a été accusé d'avoir reçu des diamants de la part de Bokassa, à qui il donnait bien volontiers du cher parent. Cette affaire des diamants révélée par le Canard enchaîné a pesé lourd dans la défaite du candidat Giscard d'Estaing. La République centrafricaine a toujours été un enjeu stratégique pour la France. D'abord à cause de sa position géographique. Cette ancienne colonie, qui s'appelait autrefois Lubangui-Chari, est en effet un trait d'union entre la zone soudanaise et le bassin du Congo, le ventre de l'Afrique. Au nord se trouve le Tchad, perpétuellement instable et surtout perméable à l'influence libyenne et islamique. Et à l'ouest, il y a le riche Gabon, un état pétrolier étroitement lié à la France. Ce n'est donc pas par hasard si notre pays a toujours entretenu une importante garnison militaire en Centrafrique, dont les propres richesses ne sont pas négligeables. 12e producteur mondial de diamants, la Centrafrique possède d'énormes réserves d'uranium, plusieurs milliers de tonnes selon les experts. Officiellement, la France a accordé l'indépendance à ses ex-colonies africaines en 1960. Mais elle n'a jamais cessé d'y exercer sa tutelle, même si c'est moins vrai aujourd'hui, car elle n'a plus les moyens d'être le gendarme de l'Afrique. Ce n'était pas encore le cas en 1979. L'histoire exemplaire de la chute de Bokassa Ier témoigne avec éloquence des méthodes utilisées par les services secrets français lorsqu'ils veulent déstabiliser un gouvernant africain. Bokassa, ancien sous-officier de la coloniale, a terminé sa carrière dans l'armée française avec le grade de capitaine. Même s'il est resté pour l'opinion toujours condescendante lorsqu'il s'agit d'Africains, l'ancien adjudant devenu maréchal puis empereur. En 1979, il approche la soixantaine. Malgré une intempérance notoire, c'est encore un solide gaillard. Il faut l'être pour partager la vie de ses nombreuses épouses et élever son abondante progéniture. Prénommé Jean Bedel, parce qu'il est né le jour de la Saint-Jean-Baptiste de la Salle, sur le calendrier, c'était orthographié Saint-Jean B-D-L, d'où Bedel. Bokassa, orphelin très tôt, a été pris en charge par des pères blancs dont il a reçu une bonne éducation. Il a même failli devenir prêtre. Ce n'est donc pas la brute avinée et stupide qu'on a trop souvent présentée. Même si De Gaulle, qui le recevait pourtant en grande pompe, se plaisait à l'appeler le soudard, Bokassa était loin d'être sot. Il renonce donc à la prêtrise et choisit la carrière des armes. Il s'engage dans les fameux tirailleurs sénégalais et, au sein des premières forces françaises libres, il sera l'un des libérateurs de la Provence en 1944. Ensuite, c'est la coloniale et l'Indochine. Au début des années 60, lors de l'indépendance de son pays, le capitaine Bokassa, qui arbore nombre de décorations dont la Légion d'honneur, devient presque naturellement le commandant en chef de la nouvelle armée africaine. Ça lui est d'autant plus facile que le président de la République du Nouvel État est son cousin David Dacko. Cela n'empêchera pas Bokassa, quelques années plus tard, de débarquer son parent et de prendre le pouvoir à sa place avec l'aide de la France qui voit d'un mauvais œil Dacko se rapprocher de la Chine populaire. Président, c'est encore trop peu. Bokassa se fait nommer président à vie. Ben voyons. Et bientôt, empereur, Bokassa Ier. Comme son illustre modèle corse, il se couronnera lui-même et après lui son épouse favorite, l'impératrice Catherine. En 1979, éclate l'affaire des diamants. Incontestablement, ce scandale accélérera la chute de Bokassa. En réalité, Paris a des raisons encore plus sérieuses pour vouloir se débarrasser au plus vite de Bokassa. Toutefois, on ne chasse pas le dirigeant d'un pays, fût-il africain, d'un simple coup de baguette magique. L'affaire est longuement mitonnée. Les plus hautes instances de l'État français ont chargé les services secrets d'exécuter une très subtile manœuvre de désinformation. Tiens, tiens. Alors, la désinformation a longtemps été une spécialité soviétique, mais elle est vieille comme le monde. Codifié 5 siècles avant notre ère dans l'art de la guerre du chinois Sun Tzu, qui écrivait en substance que la plus grande des victoires ne consiste pas à gagner sur le champ de bataille, mais à condamner son ennemi à l'impuissance sans avoir à le combattre. Ouais, toute une psychologie. Cette spécialité de la guerre psychologique passe par l'intoxication. Les experts en répertorient 3 formes. L'intoxication blanche, d'abord. Elle consiste à révéler à l'opinion publique des faits réels mais restés secrets, en particulier pour des raisons d'État. Ensuite vient l'intoxication grise, qui mêle information vraie, demi-vérité et contre-vérité. Bref, on glisse dans un schéma cohérent qui a toutes les apparences de l'authenticité, de réels mensonges qui seront particulièrement difficiles à détecter. Enfin, il y a l'intoxication noire. L'information est fausse, totalement inventée, mais si habilement imaginée qu'elle sera longue à démentir. Dans le cas de Bokassa Ier, c'est l'intoxication grise qui a été préférée, c'est-à-dire la révélation d'informations fausses glissées à l'intérieur d'une trame vraie. Bokassa n'était pas un tendre. Il ne faisait pas bon le contrarier. Le colonel Banza, soupçonné d'avoir ourdi un complot contre l'empereur, a non seulement été arrêté et promptement fusillé, mais bon nombre de ses parents ont été appréhendés et ne sont jamais réapparus. C'est donc un tyran qui ne s'embarrasse guère des lois et qui, à l'occasion, n'hésite pas à mettre lui-même la main à la pâte. Cette réalité sera mise à profit pour échafauder une opération de désinformation. La manœuvre est simple. Bokassa a tué ou fait tuer 10 personnes. Pourquoi n'en tuerait-il pas 100 ou 1000? Encore faut-il un début de preuve. À la fin 1978, le premier ministre centrafricain Henri Maidou prend une curieuse décision. Il impose aux écoliers étudiants le port d'un uniforme. Aussitôt, c'est le tollé. La plupart des parents sont incapables d'assumer la dépense. Les lycéens descendent dans la rue, mais aussi, curieusement, de jeunes adultes. Ceux-là ne sont venus que pour casser. Pendant que se déroulent ces premières manifestations très violentes, le premier ministre centrafricain se trouve à Paris, à l'invitation du président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing. 3 mois plus tard, comme le gouvernement n'est toujours pas revenu sur sa décision, les manifestations recommencent. Très vite, elles dégénèrent en quasi-émeute. Les premières victimes sont des policiers et des soldats. Pourquoi ? Parce que ceux-ci ne sont pas armés. Bokassa a tellement peu confiance dans ses troupes qu'il préfère les voir sans armes. Quand on sait combien de chefs d'État africains ont été destitués par leurs militaires, on le comprend sans peine. Cependant, devant l'ampleur de la révolte, Bokassa est bien obligé d'autoriser le gouvernement à distribuer des armes. Des manifestants tombent à leur tour. D'autres sont arrêtés, emprisonnés. Certains, de très jeunes gens, sont même fusillés dans la prison où on les a enfermés. Vite, très vite, on parle de bains de sang. Un véritable massacre, plusieurs centaines de victimes, pour la plupart des gosses, des adolescents. L'opération de désinformation est bien engagée. D'abord, on suscite des manifestations, puis on encourage la répression et on exagère considérablement le nombre des victimes. L'empereur, au moment de ces événements tragiques, réside dans son palais à 80 km de Bangui. Il n'a pas commandé ses fusillades et ses exactions. D'ailleurs, aussitôt après, il ordonne une enquête et limoge plusieurs responsables, dont certains ministres. C'est trop tard. Le mal est fait. Bokassa, aux yeux du monde entier, est devenu un buveur de sang, un massacreur d'enfants. Ici, il faut se reporter au procès qui lui sera fait en 1986. Une première fois, l'empereur déchu est condamné à mort par contumace. Quand il comparaît en personne lors d'un deuxième procès, les juges n'ont donc aucune raison d'être cléments. Pourtant, le ministère public ne parvient pas à prouver la culpabilité de Bokassa dans l'affaire des lycéens. L'ancien capitaine de la coloniale est simplement accusé de complicité. L'ex-empereur a donc été victime d'une machination ourdie par les services français avec la complicité de hauts responsables centrafricains et d'opposants. Il fallait à tout prix faire de Bokassa un monstre et donc justifier son éviction du pouvoir. La désinformation ne s'arrêtera pas là. Quand Bokassa aura été renversé, on prétendra avoir trouvé dans les congélateurs du palais impérial de la chair humaine. Bokassa, cannibale. Là aussi, l'accusation sera rejetée par les juges centrafricains lors du procès de l'ex-empereur. En vérité, rien n'était trop énorme pour salir Bokassa. Ce sont des agents du SDECE qui ont pénétré les premiers dans le palais impérial lors de l'opération Barracuda visant à destituer Bokassa. Ces mêmes hommes qui ont répandu la rumeur du cannibalisme. L'empereur est alors l'égal d'un Néron, d'un Caligula ou encore d'un Gilles de Rais. Un aventurier, collaborateur occasionnel des services de renseignement français, explique que Bokassa n'était pas un anthropophage habituel. S'il est exact qu'il gardait de la chair humaine dans ses frigos, c'était pour honorer certains de ses collègues chefs d'État africains qui continuaient à manger de la chair humaine. Petit retour en arrière. En septembre 1979, l'empereur centrafricain a commis une erreur fatale. Il se rend en Libye pour rencontrer le colonel Kadhafi. La nuit qui suit son départ, 2 transats du SDECE décollent de Villacoublay. L'opération Barracuda commence. À bord se trouvent les militaires sans grade ni insigne. Ce sont des agents du SDECE et des hommes du 1er RPIMA, un régiment parachutiste d'infanterie de marine qui sert traditionnellement d'auxiliaire au service action du SDECE. Dans l'un des avions, il y a aussi un Africain, David Dacko, le cousin de Bokassa. Celui-là même qui l'a chassé du pouvoir. C'est le successeur choisi par la France. Les deux Transals se dirigent vers Bangui. Sur place, tout se passe très vite. Les principaux bâtiments officiels et la radio sont occupés sans incident. David Dacko, nouveau président installé par la France, déclare à la radio que Bokassa est destitué. Le coup d'État est une réussite parfaite. L'opération Barracuda n'est pas terminée pour autant. Il faut s'emparer des documents détenus par Bokassa. S'ils étaient rendus publics, ils pourraient se révéler embarrassants pour la France et ses dirigeants. C'est pourquoi l'équipe du SDECE procède à un déménagement en bon ordre des deux résidences de Bokassa. Tout est emporté, y compris une fortune en diamants et en devises, un vrai trésor. Les documents sont acheminés rapidement en France et mis à l'abri par les hommes du SDECE. Quant au trésor, mystère. Bokassa est donc en Libye lorsqu'il apprend sa destitution. Paradoxalement, il dédaigne l'hospitalité que lui offre Kadhafi et d'une façon assez insensée, il choisit la France. Mais pourquoi ? Parce qu'il possède en principe la double nationalité. Dès que la caravelle présidentielle centrafricaine est signalée, des mirages l'escortent et obligent le pilote à se poser sur l'aérodrome militaire d'Evreux. Pendant 3 jours, l'avion est bloqué. Bokassa est mis au secret dans son appareil. Il lui est interdit de communiquer avec qui que ce soit. Au bout de ces 3 jours, Bokassa est envoyé en Côte d'Ivoire, où il est en quelque sorte assigné à résidence surveillée et gardée par des hommes du SDECE. D'un point de vue purement technique, le renversement de Bokassa est un succès. Mais dans les opérations apparemment les mieux réussies se glisse parfois un méchant grain de sable. Dans l'affaire Bokassa, ce grain de sable s'appelle Roger Delpé. Delpé, à l'origine, est un baroudeur. Il a combattu en Indochine comme Bokassa, dont il a été le compagnon d'armes. Après l'Indochine, Delpé publie un livre à succès sur sa guerre et se lance dans la politique. Il est gaulliste jusqu'au moment où le général choisit de donner l'indépendance à l'Algérie. À partir de là, ses amitiés politiques vont plutôt le porter vers l'extrême droite. En 1979, l'ancien combattant apprend les massacres d'enfants à Bangui. Son sang ne fait qu'un tour. Il écrit à Bokassa et lui demande des comptes, au nom de leur ex-fraternité d'armes. Bokassa lui répond immédiatement et lui demande de venir à Bangui. Il veut s'expliquer, se justifier. Delpé, ébranlé par les protestations d'innocence de Bokassa, entreprend une enquête en République centrafricaine sur les massacres de Bangui. Le baroudeur est rapidement persuadé que Bokassa est victime d'une manipulation et que plusieurs de ses ministres sont complices. Il avertit Bokassa, mais il est trop tard. À Paris, on a déjà décidé de mettre en branle l'opération Barracuda. Après la déposition de l'empereur, Delpé est décidé à innocenter son ancien camarade de combat en démontant la manipulation dont il a été victime. Il s'agite beaucoup, devient son défenseur, son homme de confiance. Contre toute attente, il réussit même à rencontrer l'ancien empereur en Côte d'Ivoire, malgré la surveillance imposée par les hommes du SDECE. À l'occasion de cette rencontre, Bokassa parvient à lui remettre de précieux documents qu'il a emportés avec lui en Libye et qui ont donc échappé aux sbires du SDECE. Une fois en possession de ces papiers, Delpé commence à démarcher des éditeurs. Il veut écrire un livre qui innocentera son ami Bokassa. Toute cette agitation ne passe pas inaperçue. En haut lieu, on se décide à intervenir. Heureusement, pour le pouvoir, Delpé commet une erreur. À peu près la même erreur que celle qu'a commise son grand ami Bokassa. Il sera en l'ambassade de Libye à Paris. À sa sortie, la DST lui met la main au collet et l'accuse illico d'espionnage au profit de Kadhafi. Une accusation qui ne sera étayée par aucun élément sérieux. À l'époque, en relatant son arrestation, de nombreux journaux évoqueront les lettres de cachet de l'ancien régime. Delpé finira par bénéficier d'une ordonnance de non-lieu après l'élection de François Mitterrand et donc la défaite de Valéry Giscard d'Estaing. Il aura quand même passé presque 7 mois en prison. En fait, ce qui intéressait le pouvoir, c'était les documents que détenait Delpé. Beaucoup concernaient le président de la République. Il était question des diamants, bien sûr, mais aussi des territoires de chasse qu'appréciaient Giscard d'Estaing et sa famille. Et encore d'affaires beaucoup plus privées, qui témoignaient du grand intérêt du président français pour l'Afrique et ses beautés. Delpé, après sa libération, a publié tout cela. Inutile d'y revenir. Mais la réalité, la vraie réalité, est restée soigneusement dissimulée. La question importante est celle-ci. Pourquoi fallait-il éliminer Bokassa Ier à tout prix? Pourquoi prendre autant de risques en s'immisçant si ouvertement dans les affaires d'un État indépendant? En 1979, Bokassa, qui se sent progressivement lâché par la France, entend se rapprocher du leader libyen. Le procédé s'apparente à une sorte de chantage. L'empereur s'adresse indirectement à Paris. Il écrit ceci. « Si vous ne continuez pas à me soutenir et à m'aider, je vais voir ailleurs. » Officiellement, il s'agit de demander une petite contribution financière à un État ami. La Libye, par exemple. Officieusement, il s'agit de tout à fait autre chose. Et c'est la clé de cette affaire. La République centrafricaine dispose de ressources importantes en uranium. Bokassa veut exploiter ces richesses. Il lui faut l'aide technique et financière de Paris. Curieusement, le gouvernement français rechigne. Les experts prétendent que l'exploitation ne serait pas rentable. En fait, ils considèrent ces ressources comme une réserve. À exploiter plus tard. Bokassa, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Excédé par les atermoiements de la France, il va chercher ailleurs. En Libye. Mais aussi en Irak. Deux pays arabes soupçonnés d'encourager le terrorisme international qui vont pouvoir ainsi acquérir des tonnes d'uranium. Le contrat est prêt, il va bientôt être signé. La France ne peut l'accepter. Bokassa doit donc disparaître de la scène politique centrafricaine. Dans cette affaire, vous le comprenez bien, les diamants ont pesé bien peu. L'ex-empereur est mort en 1996, après avoir séjourné plusieurs années en Côte d'Ivoire. Il est revenu en France dans un château qu'il possédait. En 1986, déjouant la surveillance dont il était toujours l'objet, il a réussi à fausser compagnie à ses gardiens et il est revenu chez lui en Centrafrique. Condamné à la réclusion perpétuelle, il a ensuite bénéficié d'une remise de peine. Il a fini tranquillement ses jours dans un mysticisme exacerbé au milieu des siens. êtes à l'écoute de CFM Radio. Exactement, vous écoutez l'émission au plus profond des ondes. Et nous enchaînons avec une histoire tout à fait différente qui se situe à la limite du paranormal, sinon tout à fait, puisqu'il s'agit de Dames Blanches, des autostoppeuses revenantes. Intéressons-nous donc à présent aux SDF de l'au-delà. Ces fameuses autostoppeuses qui ont leur habitude sur un bas-côté précis, non loin d'un virage ou d'un carrefour dangereux où généralement elles auraient trouvé la mort. À ce jour, plus de 300 cas de ce genre ont été recensés par la gendarmerie française. Ces victimes d'accidents se manifestent le plus souvent la nuit et sont toujours vêtues de blanc. Pourquoi ? Apparemment, la mode du gilet jaune obligatoire n'a pas encore atteint l'au-delà. À noter que la gendarmerie d'Aubenas signale un cas tout à fait particulier. Une jeune femme en cuir noir, casque sous le bras, apparaissant périodiquement plein jour pour jouer les autostoppeuses fantômes. Une réflexion d'emblée. Si l'absence de parité peut s'expliquer chez les dames blanches de l'entrée précédente, un homme infidèle étant rarement emmuré vivant par son épouse avant le début du XXe siècle, on a du mal à justifier un tel sexisme au niveau statistique en ce qui concerne les accidents de la route. Je n'ai trouvé d'ailleurs qu'un seul témoignage relatif à un monsieur blanc. C'est celui d'une jeune fille nommée Rick Fucht, 57, sur un blog majoritairement sceptique traitant de ce sujet. Le 20 août 2012, cette internaute raconte que, la veille, préparant son permis de conduire au volant avec sa belle-mère, elle se sentait particulièrement stressée sur un itinéraire de montagne réputé pour ses nombreux accidents. C'est alors qu'elle a vu sur le bas-côté d'en face un vieillard marcher de dos, silhouette toute blanche, des pieds à la tête. Aussitôt, elle s'est sentie bizarrement apaisée. Juste avant de dépasser l'étrange promeneur, elle l'a montré à sa belle-mère qui, elle, n'a rien vu. Désarçonnée, la jeune conductrice a regardé dans ses rétros. En effet, il n'y avait plus personne sur le bas-côté. Sans autre garantie de son authenticité, c'est le genre de témoignage aux accents paumés qui respire la sincérité et l'espoir d'une explication, d'un écho, tandis que les autres chatteurs du forum ricanent. T'as intérêt à changer de lunettes avant de passer ton permis, ouais, genre. Mais revenons aux dames. Les autostoppeuses fantômes ont été signalées dans presque tous les pays, sauf à Cuba, en Corée du Nord et dans la principauté de Monaco. C'est dire si c'est mondial. Le développement de la vidéosurveillance semble affecter la fréquence de leurs manifestations. Avec la paranoïa urbaine qui gagne les campagnes, l'espèce est peut-être en voie de disparition. La première dame blanche officiellement répertoriée par la police date des années 1930, à Chicago. Avenue Archer, sur la portion de route allant de la salle de bal Willowbrook au cimetière de Résurrection. Ça ne s'invente pas. Le Chicago Tribune recense une quarantaine de dépositions relatant un scénario identique de 1935 à nos jours. Une jolie blonde, aux yeux bleus, portant une robe blanche, un sac à main et des souliers de danse, arrête une voiture, monte à l'arrière et demande à descendre aux abords du cimetière dans lequel elle disparaît. La tradition l'a identifiée en tant que Mary, une jeune femme renversée en 1935 par un chauffard alors qu'elle sortait du bal et enterrée dans le cimetière en question. Alors, hallucination en série provoquée par la connaissance de ce vieux fait divers ? Légende urbaine entretenue à des fins publicitaires par la discothèque engageant des figurantes dans le rôle de la revenante ? Ou bien astuce de la police routière, plus efficace mais moins lucrative qu'un radar ? En tout cas, la répétition de ce dernier trajet en ligne droite, du dancing au cimetière, semble l'unique objectif de la récurrente Mary. Mieux intentionnée, en revanche, nous paraît cette jolie jeune femme vêtue d'une robe blanche très sixties sur la route de Limoges. Une nuit de 1979, un certain monsieur Michel, qui allait chercher des amis pour une virée en boîte, charge l'immaculée autostoppeuse. Elle se contente de lui dire qu'elle se rend à Limoges et qu'après, elle se débrouillera. Puis elle ne desserre plus les lèvres jusqu'aux abords du pont de la Révolution. Là, elle s'agite soudain. Attention, ce virage est dangereux. Michel ralentit, en réflexe, se tourne pour la remercier. Elle n'est plus là. Quand en état de choc il va signaler l'événement à la gendarmerie, on lui répond « Normal, vous n'êtes pas le premier à qui elle le fait le coup. » Chaque fois, elle s'évapore sur le pont de la Révolution, où elle est morte il y a 20 ans. Excès de vitesse. Vous rouliez à combien, vous ? La volonté manifeste qu'ont les dames blanches d'empêcher la récidive de l'accident qui leur fut fatal est une constante du dossier en France, où la prévention routière est une priorité nationale. La maréchaussée abonde en procès-verbaux de ce genre. En l'occurrence, on ne peut pas reprocher aux gendarmes de colporter une rumeur légendaire. Ils ne font qu'enregistrer les dépositions de dizaines de témoins qui peuvent s'être donné le mot pour faire bisquer les sceptiques, d'accord. Mais étalé sur 20 ans, ce type de canular intermittent n'est pas vraiment crédible. Hein, bizarre. Aucun des conducteurs ayant embarqué une dame blanche n'en a jamais tiré d'autre profit que l'incrédulité, les moqueries ou l'inquiétude de ses proches sur sa santé mentale. On chercherait en vain dans leur intention le prestige médiatique, l'endoctrinement ou la dérive sectaire. Le même scénario se retrouve à Compiègne, au Pays Basque, en Bretagne, en Vendée, au col du Lautaret, près d'un abribus devant l'hôpital de Caen. Presque toujours, des conducteurs seuls et des passagères qui se volatilisent sans autre témoin. Une variante toutefois dans les nombreuses apparitions localisées à Caen. L'autostoppeuse s'adresse cette fois à un couple. Pauline Darnois, une retraitée qui paraît parfaitement sensée, posée et pragmatique, raconte dans un film documentaire qu'une femme en blanc, quelques années plus tôt, a toqué à la vitre de son mari pour lui demander de la conduire au cimetière anglais de Bayeux. Il accepte, curieusement, lui qui ne prend jamais personne. Son épouse ouvre la portière arrière à l'inconnu. J'étais surprise par sa tenue, un grand châle descendant jusqu'au sol, et on ne voyait pas ses chaussures. Durant le trajet, l'autostoppeuse ne desserre pas des lèvres, l'air à la fois concentré et absent. Soudain, en pleine forêt, une voiture qui arrive en face perd le contrôle, des boîtes leur foncent dessus. Mon mari a évité la collision avec une rapidité et un calme incroyables. En revanche, il perdra un peu le contrôle de ses nerfs lorsqu'arrivé au cimetière. Il descendra ouvrir la portière à sa passagère qui, on l'aura deviné, a disparu de la banquette. Le couple mettra un certain temps à reprendre le dessus. On les comprend. Autre histoire. À Palavas-les-Flots, la nuit du 20 mai 1981, on note une progression intéressante. Quatre personnes dans une voiture à deux portes. L'autostoppeuse prend place à l'arrière entre deux hommes. Sa disparition soudaine, une fois délivré son message de sécurité routière, n'en sera que plus saisissant aux yeux des témoins qui se précipitent dans le premier poste de police. Leurs dépositions, recueillies séparément, sont parmi celles qui marqueront le plus les enquêteurs. Passons maintenant à la guerre des dames qui a sévi un temps sur la route de l'Essey dans la Manche. Au XVIIe siècle, une femme se serait fait assassiner en ce lieu, aux abords de la Lande. Depuis, plantée là, chaque anniversaire de sa mort, comme une plaque commémorative, elle aurait causé, à titre de vengeance, d'après la légende, le trépas de dizaines de conducteurs d'attelage ou d'automobiles ayant eu l'audace de la fixer dans les yeux sans honorer sa mémoire. Car ces dames ne sont pas toutes des protectrices. Et puis, en 1970, apparut la concurrence, si on peut dire. Une voiture fut arrêtée sur cette route par une jeune Blanche-Neige qui monta à l'arrière. Elle resta silencieuse et impassible jusqu'aux abords du carrefour où le conducteur la vit s'agiter fébrilement dans son rétroviseur. Il redressa vivement sa direction, manquant s'encastrer dans le camion qui arrivait en face. Puis, alors qu'il longeait un cimetière, il s'aperçut que sa passagère avait disparu. En prenant sa déposition, les gendarmes constatèrent que cette demoiselle blanche ressemblait trait pour trait à la petite Gabrielle, enterrée depuis peu dans ce cimetière, après avoir été percuté au carrefour de l'Essey. Un accident causé par l'assassiné tricentenaire ? Commença alors entre ces deux autostoppeuses fantômes, c'est presque marrant, un conflit de territoire que perdit rapidement la plus vieille, d'après les riverains. On n'avait Dieu que pour Gabrielle, désormais. Plus de 20 témoignages identiques recueillis en 5 ans par les gendarmes. Et puis en 1975, on sécurisa le carrefour. Mission accomplie, je suppose. Gabrielle ne réapparut pas. L'âme en peine du XVIIe siècle, non plus. Elle a fini par trouver la paix, semble-t-il. Ou bien elle boude. Dans le Calvados, en revanche, à Bas-le-Roi, on a refait plusieurs fois un carrefour très dangereux, où continuerait néanmoins d'apparaître la jeune fille qui trouva la mort en 1960. Principe de précaution ? Force est de constater que la célébrité de cette légende n'est pas sans causer toujours un certain nombre d'accidents, les conducteurs qui tendent des yeux la route pour tenter de repérer la fameuse fée du carrefour. Dernière variante en date, juin 2012. Trois jeunes bien allumés sont en train de jouer au rallye dans une petite Citroën sur une route à quatre voies dans la nuit déserte. Et ils filment leur exploit au moyen d'une caméra orientée vers le pare-brise, avec le compteur de vitesse en amorce. Soudain, sur la gauche, on découvre, en même temps qu'eux, une silhouette de femme dans un halo laiteux qui semble alangui au milieu de la chaussée, dans une position de pique-nique. Ils ralentissent aussitôt. Les commentaires sont à la hauteur de l'image. « Putain, c'est une psychopathe, la meuf. Fais demi-tour. Arrête, je peux pas, là. Faut pas qu'on se fasse violer. On déconne pas, c'est la dame blanche à tous les coups. Oh, attends. J'y crois à mort, moi, à ces trucs. Fais demi-tour, je te dis. » Le conducteur obtempère. Mais comme désormais il roule beaucoup moins vite et avec une très grande vigilance, la supposée défunte n'a plus lieu d'être en mode pique-nique au milieu de la chaussée. Conclusion, si ces trois lascars sont des comédiens amateurs qui ont mis en scène une mini-fiction, Luc Besson peut les engager les yeux fermés. Ils sont d'une justesse jubilatoire. Je précise que la vidéo est disponible sur le net. À l'examen de ces différents cas, on se demande si le respect de l'uniforme, en l'occurrence ces sempiternels vêtements de lumière blanche, est un moyen de signalisation pour ces éventuelles revenantes, ou l'indice que les témoins projettent inconsciemment l'image qu'ils savent associer au lieu. On m'objectera que beaucoup de conducteurs ayant laissé leur témoignage à la gendarmerie sont des étrangers méconnaissant le folklore local. Et que certaines dames blanches ont été photographiées et filmées, ce qui, même si les images ne sont pas truquées, n'infirme du reste pas mon hypothèse. Les apparitions hologrammes de la Vierge Marie de Zeytoun en Égypte, vues par des millions de témoins en 1968, puis lors de chaque grand massacre de chrétiens, sont le plus souvent considérées comme des projections mentales de la foule. Et elles ont été photographiées et filmées. On m'objectera aussi que nombre de ces dames blanches, au dire des témoins présentés comme fiables, parlent et sont parfaitement en chair avant de se fondre dans l'air. Un de ces conducteurs a même avoué aux gendarmes en avoir peloté une, qu'il aurait plutôt mal pris d'ailleurs, mais qui hélas a disparu sans porter plainte. Parfois, elles partent même avec des objets. Il est arrivé à ce propos, en 1977, un phénomène assez troublant. L'un des plus documentés dans ce dossier où la légende est souvent beaucoup mieux nourrie que les investigations critiques. Ce jour-là, à Chapareillant, en Isère, un médecin grenoblois roule sous une pluie battante quand il aperçoit une jeune fille, toute de blanc vêtue évidemment, plantée au bord de la route. Il s'arrête aussitôt, lui propose de la ramener chez elle. Elle donne son adresse, puis demeure silencieuse et immobile, jusqu'au moment où ils franchissent le pont du Furet. Là, elle montre des signes d'une agitation anxieuse. Arrivé à l'adresse qu'elle lui a indiquée, il lui prête un parapluie sous lequel elle court se réfugier dans sa maison. Au bout de quelques minutes, comme elle ne revient pas, et que c'est son seul parapluie, il va sonner à la porte pour le récupérer. Un couple entre deux âges lui ouvre, surpris. Il leur expose la situation. Tous deux le fixent, bouche ouverte, figé. Croyant qu'il a affaire à des gens sous tranquillisants, il donne avec une lenteur appuyée le signalement de la jeune fille qu'il vient de raccompagner. Ils lui répondent alors qu'il est en train de décrire leur fille unique tuée des années plus tôt dans un accident de moto sur le pont du Furet. Et toc. Bien sûr, dans les 300 cas recensés sur les routes de France par l'historien Didier Audinot, grand chasseur de dames blanches, il y en a un bon nombre d'illusions d'optique, certes, de vidéos sujettes à caution et d'invention pure. Audinot, lui-même chroniqueur à Europe 1 et directeur de publication de la revue Trésor de l'Histoire, s'est livré à une expérience très intéressante. Il a inventé une dame blanche et il est allé la signaler dans une gendarmerie de Bourgogne, comme on va déclarer son nouveau-né à l'Amérique. Dans les semaines qui suivirent, une foule de témoins, y compris des étrangers de passage, virent cette créature dans le tournant où ils l'avaient localisée. comme s'il avait imprimé dans le paysage. D'où mon hypothèse de projection mentale, peut expliquer des cas de ce genre, mais pas tous. Je terminerai donc en évoquant une toute autre forme de dame blanche. Durant la Première Guerre mondiale, tous les réseaux de résistance belges avaient été décapités, décimés par le contre-espionnage ennemi, sauf un. Le groupe Dame Blanche, précisément, lié à celui que dirigeait dans le nord de la France mon arrière-grand-mère Hortense Le Rouge. Cette bouillonnante patronne de brasserie a souvent raconté dans la famille qu'une de ses amies belges, fusillée par les Allemands en tant que membre du réseau Dame Blanche, apparaissait sous cette forme à ses camarades lorsqu'ils étaient en danger de se faire arrêter. Ils en tenaient compte et déguerpissaient, annulaient un déplacement ou reportaient une mission. Le phénomène était-il réel ou bien la superstition confiante aiguisait-elle un sixième sens chez ces combattants de l'ombre ? Les héros de la Dame Blanche passèrent en tout cas entre les mailles du filet allemand. Comme quoi, le fait de croire en la réalité de l'invisible peut se révéler un bon moyen de survivre au cœur de la clandestinité. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot. Après cette petite pause musicale, nous terminerons par une petite réflexion sur Tchernobyl. Miracle à Tchernobyl. Il n'est pas normal, je dis bien, il n'est pas normal que nous soyons encore vivants. Oups. Ah oui, nous, les Européens. C'est même carrément un miracle, d'après le professeur Georges Lochac. Cet éminent physicien français, président de la Fondation Louis de Broglie, est l'un des experts qui a le plus étudié l'origine, la nature, le déroulement et les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl le 26 avril 1986. Rappelons qu'il ne s'est agi que, entre guillemets, d'une explosion thermique ayant produit le fameux nuage radioactif, suite à une apparente série de cafouillages humains liés à la maintenance du site. La plus grande partie de l'Europe aurait été rayée de la carte s'il s'était agi d'une explosion nucléaire à l'intérieur du réacteur. Vous soulignez bien. Or, celui-ci contenait 180 tonnes d'uranium enrichi. Et pour le professeur Lochac, il est impossible, dans les conditions où s'est déroulée la catastrophe, que cette explosion nucléaire n'ait pas eu lieu. À moins d'admettre une explication scientifique fondée sur un phénomène pas vraiment rationnel, que Lochac a constaté, il n'en démord pas. Ni ses collègues physiciens russes de l'Institut Kourchatov, le plus grand centre de recherche nucléaire de Russie, co-signataire avec lui du rapport d'expertise du site. Leur découverte, leur réfutation de la thèse officielle et leurs conclusions sont plutôt renversantes. Tout part d'une situation désormais certaine à leurs yeux, à l'issue de l'enquête. Il n'y a pas eu explosion. C'est-à-dire, exactement, il n'y en a pas eu qu'une, mais deux. La première 30 secondes, avant celle due à la surchauffe de vapeur, a été entendue par tout le monde à des kilomètres à la ronde, mais retirée des premiers rapports d'enquêtes officielles. Cette première explosion n'était pas de nature nucléaire, écrivent Lochac et ses collègues, mais elle fut d'une violence extrême, enfonçant des portes blindées d'une épaisseur de 5 cm. Or, la cause de cet accident, qui a précédé la catastrophe, et ne saurait lui être imputée, n'a pas reçu d'explication. Certains l'ont, cette explication. Ils sont plus d'une centaine de témoins ayant vu, selon le quotidien russe Pravda, un gigantesque OVNI en vol stationnaire durant 6 heures au-dessus du réacteur. Un OVNI qui, avant même l'accident, aurait ouvert par cette première explosion le réacteur nucléaire et travaillé à sa neutralisation. Mais de quelle manière ? Lochac et ses collègues russes ne mentionnent pas dans leur rapport le mot OVNI. Ils parlent de rayonnement étrange flottant au-dessus du réacteur. L'intéressant est qu'ils ne spéculent pas sur la nature du dit rayonnement, mais qu'ils expliquent techniquement en quoi ce phénomène est lié au miracle de Tchernobyl. La disparition quasi totale du combustible nucléaire avant qu'il ne soit susceptible d'exploser. Lisons la suite de leur rapport. La paroi latérale du réacteur nucléaire a parfaitement résisté à l'explosion. L'intérieur a été exploré grâce à un périscope introduit par une ouverture forée dans la paroi, et nous avons découvert que cet intérieur était vide. La face interne du réacteur a été trouvée étonnamment indemne. La peinture était restée intacte. Or, on a pris soin de vérifier qu'elle ne résistait pas à une température supérieure à 300 degrés. Ces faits auraient dû attirer l'attention. Malgré cet apparent état normal, une force énorme qui n'a pas ébranlé les parois du réacteur a soulevé de 10 mètres son couvercle en béton de 3 mètres d'épaisseur et pesant 2000 tonnes qui a basculé sur le côté. Et le plus incroyable nous est assené avec un style d'une neutralité parfaite que conservera Lochac lorsqu'il confirmera ses propos dans un ouvrage collectif de vulgarisation. Ce que l'on sait, même si cela n'a jamais été dévoilé au grand jour, c'est que des transmutations se sont produites au sein du réacteur au moment de l'accident. Par exemple, on y a trouvé une dizaine de tonnes d'aluminium, métal qui est totalement étranger à la construction du réacteur. Vous avez bien lu. Des transmutations, comme au temps des alchimistes, quand Nicolas Flamel et ses émules tentaient de changer le plomb en or. Précisons d'emblée qu'il est rigoureusement impossible en physique d'obtenir de l'aluminium à partir d'uranium enrichi. Je précise. Alors que s'est-il passé ? Comment cet aluminium s'est-il retrouvé là et comment 90% du combustible nucléaire s'est-il évaporé ? Réponse de nos quatre experts, le rayonnement étrange qui flottait au-dessus du réacteur transportait des monopôles magnétiques. Nous voilà bien avancés. De quoi s'agit-il? D'un rayon magique pompant l'uranium et le transmutant? Pas tout à fait. On appelle monopôle magnétique des particules hypothétiques qui seraient porteuses d'une seule charge magnétique ponctuelle, à la différence des aimants qui possèdent deux pôles magnétiques opposés. Georges Lochac, à la suite de Paul Dirac et Louis de Broglie, en est aujourd'hui le plus grand spécialiste international, pour ne pas dire le seul. Vulgairement parlant, si l'on associe la théorie de ces physiciens, leur description de l'état intérieur du réacteur nucléaire et les observations extérieures d'OVNI, on en arrive à l'hypothèse suivante. Le rayonnement étrange a volatilisé près de 180 tonnes d'uranium enrichi en le transformant en aluminium inoffensif, et ce afin d'éviter une explosion nucléaire qui aurait anéanti l'Europe. C'est du moins la conclusion que certains sites ont publiée, bruit de décoffrage, en rendant grâce aux extraterrestres pour leur intervention. Cette conclusion se fonde sur les travaux du professeur Lochak et de ses collègues russes, mais aussi sur les déclarations de témoins oculaires, comme celle de Mikhail Karivsky dans la Pravda. Quand mon équipe et moi sommes arrivés sur les lieux de l'explosion, nous avons vu une boule de feu de 6 à 8 mètres de diamètre qui évoluait lentement dans le ciel. Deux rayons de lumière pourpre s'allongèrent vers le réacteur. Tout cela dura environ 3 minutes. Ensuite, les lumières de l'objet s'éteignirent et il s'éloigna en direction du nord-ouest. Et le journaliste de la Pravda conclut « Cela a probablement empêché la catastrophe nucléaire. » Et voilà. Comparé aux autres dossiers de ce type que j'ai étudiés, celui-ci paraît à la fois le plus commenté par les scientifiques et le moins riche en témoignages militaires, alors que l'état-major russe, on l'a vu notamment dans le rapport Cometa, est plutôt enclin d'habitude à la reconnaissance officielle de phénomènes OVNI. Gageons que, en l'occurrence, ce silence est moins dû à un éventuel sauvetage de nature extraterrestre qu'aux négligences humaines qui paraissent à l'origine de la catastrophe. Cela étant, une lecture attentive du rapport, très complexe, de Georges Lochak, m'oblige à dire qu'il ne soutient pas du tout la thèse d'une intervention extraterrestre, mais d'une explosion initiale dans la salle des machines de la centrale ayant dégagé, d'après lui, ces fameux monopoles magnétiques, concept dont il détient aujourd'hui la quasi-exclusivité. Pour ne pas dire le monopole, comme l'ont fait sans se priver du jeu de mots ses adversaires qu'il accuse de vouloir placer son produit. Le rayonnement étrange dont il parle dans son texte peut se rapporter à une simple émission lumineuse de neutrinos entrant dans la composition de ces monopoles, si j'ai bien suivi. Et puis, il y eut Fukushima en avril 2012. Rebelote, un hélicoptère de la télévision japonaise a longuement filmé un ovni en vol stationnaire au-dessus de la centrale durant la catastrophe qui aurait pu détruire le Japon. Compte tenu de la quantité de combustible nucléaire présent dans le réacteur, l'accident de Fukushima aurait dû être 300 fois plus dévastateur que celui de Tchernobyl. Tous les experts s'accordent à dire que 99% des conséquences logiques de cette catastrophe n'ont pas eu lieu. Que s'est-il passé alors? A-t-on retrouvé une fois encore dans le réacteur de l'aluminium en lieu et place de l'uranium 235? Aucune réponse officielle du Japon. Chape de plomb. C'est le ministère de la Défense chinois, un bon copain, qui a mis en ligne sur Internet les vidéos de l'OVNI salvateur. Le Japon a répondu que ce n'était pas forcément un OVNI. La piste d'un dirigeable a été évoquée par les sceptiques. Même celle d'un TGV, soulevé de ses rails par le tsunami. Regardez les images sur YouTube d'Dailymotion et comparez avec celles de Tchernobyl. Et avec celles des incidents nucléaires plus anciens dont j'ai parlé précédemment dans d'autres émissions. La seule différence, me semble-t-il, c'est que cette fois, on n'a pas parlé de ballon-sonde. Il faut bien évoluer un peu. C'est une bonne piste, hein, le TGV. Que dire en conclusion? Dans le doute, face à ces accidents nucléaires qui, chaque fois, auraient dû détruire des millions de vies et n'ont causé que quelques milliers de morts et de cancers, remercions que nous voulons, mais surtout essayons d'en tirer les conséquences. Et si les ovnis, comme le croient certains, ne sont que le produit réel de l'inconscient collectif qui matérialise ses angoisses ou son besoin de protection, alors là aussi il y a une leçon à méditer et une remise en cause de nos structures énergétiques dont nous ne pouvons plus faire l'économie. Que l'origine de ces catastrophes soit humaine, mécanique ou imputable à la météo, ça ne change rien aux conséquences. Cela dit, à ma connaissance, les autorités japonaises n'ont pas demandé au professeur Lochak d'aller expertiser Fukushima. On ne sait donc pas si, une fois encore, ce sont les monopoles magnétiques qui ont fait le coup. Je vous dis à la semaine prochaine.